Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le docteur Muriel Bénichou, chef du service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan. Bienvenue pour cette première émission de rentrée consacrée aux nodules thyroïdiens. Quand faut-il s'en inquiéter? Alors pour animer cette émission aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Damien Rupp, chirurgien ORL à l'hôpital de Perpignan et qui nous fera profiter de son expertise en termes de chirurgie thyroïdienne.
Bonjour à tous.
Nous commencerons par répondre durant les 15 premières minutes de l'émission aux questions que vous nous avez posées durant la semaine. Et durant les 15 dernières minutes, nous répondrons à vos questions en direct. Donc, si nous avons choisi de démarrer cette deuxième saison d'e-live par le nodule thyroïdien, c'est parce qu'il s'agit d'une pathologie extrêmement fréquente dans la population générale. Puisqu'elle touche un grand nombre de patients, notamment les femmes, et leur fréquence augmente avec l'âge. Mais fort heureusement, dans la majorité des cas, ces nodules thyroïdiens sont des nodules bénins, puisque sur l'ensemble des nodules thyroïdiens, seuls 5% seront en réalité des cancers de la thyroïde. Donc malheureusement, pourtant, pendant longtemps, l'attitude a été d'envoyer les patients en chirurgie dès lors qu'il présentait un nodule froid sur la scintigraphie thyroïdienne. Donc cette attitude est actuellement totalement révolue, d'abord parce qu'on s'est rendu compte que les nodules thyroïdiens froids étaient la plupart du temps des nodules bénins, et que d'autre part, nous disposons actuellement d'outils diagnostiques hautement performants que sont l'échographie thyroïdienne et la cytoponction thyroïdienne, et qui sont donc beaucoup plus performants que ne l'était la scintigraphie thyroïdienne pour préjuger du risque de malignité d'un nodule. Donc le rôle du médecin sera donc de réaliser une synthèse la plus pertinente possible des données de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des examens complémentaires que sont donc l'échographie, plus ou moins la cytoponction, pour mieux cibler les patients à adresser en chirurgie. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions durant la semaine, et nous vous en remercions. Mais pour des raisons de timing, nous ne pourrons répondre à l'ensemble de vos questions. Et nous avons ciblé 11 questions qui nous semblaient balayer dans sa globalité le thème d'aujourd'hui. Donc la première question de Fifi, qu'est-ce qu'un nodule thyroïdien ? Donc un nodule thyroïdien, c'est ce qu'on appelle en médecine une hypertrophie localisée de la thyroïde, c'est-à-dire en langage courant, une petite boule ou une petite grosseur sur la thyroïde. Donc ces nodules sont de trois types. Les nodules qu'on appelle liquidiens, c'est-à-dire des kystes simples. Les nodules solides, c'est-à-dire des nodules tissulaires. Et puis des nodules mixtes, c'est-à-dire à la fois ayant une composante kystique et tissulaire. Deuxième question de David qui demande, en cas de nodule, quel est le bilan à réaliser? Donc le bilan va consister tout d'abord en un interrogatoire approfondi et en un examen clinique de qualité pour rechercher les signes cliniques évocateurs de malignité. Donc à l'interrogatoire, le sexe masculin, on sait que les hommes font beaucoup moins souvent des nodules thyroïdiens que les femmes, mais qu'ils sont plus souvent malins. Les âges extrêmes, donc l'âge inférieur à 16 ans ou supérieur à 65 ans, les antécédents familiaux de cancer, donc s'il y a plus de deux personnes dans la famille qui présentent un cancer thyroïdien, il faut être prudent. Les antécédents également d'irradiation cervicale, c'est-à-dire de radiothérapie au niveau du cou, l'existence de signes compressifs, notamment des modifications de la voix, qui peuvent être en relation avec une paralysie de ce qu'on appelle le nerf récurrent, donc une paralysie récurrentielle, et également l'existence d'un nodule d'apparition brutale ou de croissance rapide. À l'examen clinique, l'existence d'un nodule dur à la palpation, fixé, c'est-à-dire qui ne bouge pas à la déglutition, ou un ganglion du même côté que le nodule, vont également nous inciter à la prudence. Une fois cet interrogatoire et cet examen clinique réalisé, nous demanderons des examens complémentaires que sont le dosage de la TSH, pour apprécier la fonction thyroïdienne qui le plus souvent est normale dans les nodules thyroïdiens, l'échographie thyroïdienne, plus ou moins couplée à la cytoponction thyroïdienne. Donc l'échographie thyroïdienne, c'est l'examen clé puisqu'il va permettre la classification des nodules en fonction de leur risque de malignité. Grâce à une classification qui a été mise en vigueur en 2017 par l'ETA, qui est la Société européenne de thyroïde, et qui a donc élaboré ce qu'on appelle la classification ETAIRAT, qui permet de stratifier le risque du nodule avec un score allant de 1 à 5. Donc en fonction de ce score et en fonction également de la taille du nodule, on procédera ou pas à la réalisation d'une cytoponction. Il faut savoir que la scintigraphie thyroïdienne n'a actuellement plus de place dans le diagnostic et le bilan d'un nodule thyroïdien, sauf quand la TSH est effondrée à la recherche à ce moment-là d'un nodule chaud. Voilà, donc je vais laisser la parole à Damien pour les deux prochaines questions.
Alors ensuite, on a une question de André qui nous demande si on l'opère d'un nodule, est-ce qu'on enlèvera uniquement le nodule ou toute la thyroïde ? Donc André, tout dépend en fait de l'indication. Est-ce que ce nodule est un nodule qui est suspect d'être un cancer ? Dans ce cas-là, on enlèvera probablement le nodule au cours d'une lobotomie, où on enlèvera la moitié de la thyroïde sur laquelle se situe le nodule. Puis on réalisera une analyse extemporanée au cours de laquelle on verra si ce nodule est un cancer. Dans ces cas-là, on pourrait être amené à totaliser, c'est-à-dire à enlever l'autre côté de la thyroïde pour être sûr d'enlever tout le tissu thyroïdien. Si ce nodule est un nodule qui fait trop d'hormones, un nodule chaud, un nodule qui est autonomisé, on pourrait être amené à enlever uniquement ce nodule, le plus souvent au cours d'une lobotomie, même si parfois on peut réaliser une énucléation, c'est-à-dire enlever uniquement le nodule s'il est accessible. Ensuite, nous avons une question de Pierre. Bonjour Pierre, qui nous demande j'ai un gros goitre avec des gros nodules des deux côtés qui me gênent. Mon médecin m'a parlé d'enlever la thyroïde. Donc votre médecin a tout à fait raison. S'agit-il d'une grosse intervention ? La thyroïdectomie est une intervention classique qui est réalisée en 40 minutes, 30 minutes, voire jusqu'à 1h30 en fonction de certaines difficultés péropératoires, qui ne peut pas être considérée comme une très grosse intervention, comme une chirurgie cardiaque par exemple. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est quelque chose qui se passe la plupart du temps très bien. Combien de temps allez-vous rester hospitalisé ? En général, c'est une nuit d'hospitalisation, voire en ambulatoire en cas de lobotomie, s'il n'y a pas de contre-indications qui sont posées par l'anesthésiste en général. Et l'arrêt de travail est en général de 15 jours minimum. Alors vous dites que vous êtes jardinier, c'est un travail de force. On peut donc prolonger l'arrêt de travail jusqu'à un mois, mais ça sera votre chirurgien qui en décidera de la durée de l'arrêt de travail.
Très bien. Sixième question de Brigitte qui demande, en cas de nodule thyroïdien, est-ce que l'échographie permet de savoir si le nodule est inquiétant ? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échographie c'est l'examen clé. Grâce donc à ce fameux système de stratification du risque des nodules, qui est la classification ETAIRAT, qui utilise un certain nombre de critères échographiques pour juger donc de ce risque de malignité. Donc ces critères échographiques, ce sont essentiellement la forme du nodule. La forme non ovale d'un nodule est toujours plus suspecte. L'existence de micro-calcifications, l'échogénicité, l'hypo-échogénicité marquée du nodule, et puis également les contours irréguliers du nodule. Voilà donc les quatre critères échographiques qui sont utilisés pour stratifier scorer donc avec cette classification ETAIRAT. Donc ainsi, on a une classification qui va de, comme je le disais, de 1 à 5. 1, c'est pas de nodule, absence de nodule. 2, c'est un kyste simple ou ce qu'on appelle un nodule spongiforme, c'est-à-dire composé essentiellement de logettes kystiques. Le nodule 3, Le Tyrats 3, pardon, c'est un nodule qu'on appelle iso-écogène, c'est-à-dire de même écogénicité que la thyroïde, ou hyper-écogène, et un nodule qui a un contour régulier, qui a une forme ovale, et qui n'a pas de microcalcification. Lorsque le nodule est modérément hypoécogène, il est classé E-Tyrats 4. Et lorsqu'il y a un des quatre signes de malignité, ou, donc un ou plusieurs des quatre signes de malignité, le nodule est classé Tyrats 5. Septième question de Maëlys qui demande « En cas de nodule thyroïdien, doit-on sitôt ponctionner tous les nodules de plus de 1 cm ?» Donc la réponse est non. En fait, cela va dépendre, comme je vous l'ai dit, de la classification E-Tyrats. Donc si le nodule est classé E-Tyrats 5, il faudra le ponctionner quelle que soit la taille du nodule, en tout cas quand cela est possible, parce que quand le nodule est trop petit, parfois on a du mal à le ponctionner. Dans ce cas-là, il faudra faire une surveillance très rapprochée en échographie pour juger de l'évolutivité du nodule. Lorsque le nodule est classé Tyrats 4, on le ponctionne à partir de 15 mm, pardon. Lorsque le nodule est classé Tyrats 3, à partir de 2 cm. Et pour les nodules Tyrats 2, il n'y a pas nécessité de ponctionner.
Nous avons ensuite une question de Christophe. Quelles sont les complications possibles en cas de chirurgie de la thyroïde et peut-on les éviter ? Alors, tout d'abord, oui, Christophe, on peut éviter les complications de la thyroïdectomie, heureusement. Alors, ces complications sont de plusieurs types. Il y a tout d'abord les risques hémorragiques, avec l'hématome compressif, qui est une sorte de très gros hématome qu'on aura au milieu du cou, qui pourrait empêcher de respirer. Donc, il faut faire des hémostases pendant l'intervention pour éviter ces saignements. Et c'est pour ça que l'on surveille les gens après l'intervention, surtout en cas de thyroïdectomie totale. On a des complications infectieuses comme dans toute chirurgie. Et ensuite, il y a des complications plus particulières comme l'atteinte des nerfs récurrents. Les nerfs récurrents, ce sont ces nerfs qui innervent les muscles, qui font bouger les cordes vocales au niveau du larynx. Ces nerfs sont assez fragiles, petits, et parfois se sidèrent, c'est-à-dire arrêtent de travailler à cause du geste chirurgical. On a donc la voix qui peut devenir rauque, ou même avoir des difficultés à respirer en cas d'atteinte des deux côtés, ce qui reste très exceptionnel. On a désormais des outils comme un neuromonitoring, c'est-à-dire un ordinateur qui va mesurer l'activité des muscles pour nous aider à conserver la fonction de ces nerfs. C'est une complication qui reste quand même assez rare, entre 1 et 5% selon les séries, et qui récupère dans la très grande majorité des cas. On a ensuite l'atteinte des parathyroïdes. Ce sont des toutes petites glandes qui sont autour de la thyroïde et qui régulent le taux de calcium dans le sang. Elles peuvent aussi être sidérées pendant l'intervention, même si on ne les a pas enlevées, ce qui peut aussi arriver dans certains cas. Et on a donc le taux de calcium qui va chuter dans le sang et on est obligé de compenser avec du calcium et de la vitamine D. On a aussi des dosages que l'on réalise après l'intervention pour vérifier que ces parathyroïdes continuent à fonctionner. Et c'est une complication qui arrive uniquement en cas de thyroïdectomie totale, car il faut toucher les quatre parathyroïdes qui se situent autour des deux lobes. Après, il y a les séquelles de la cicatrice, comme toute chirurgie, mais c'est aussi des... Ça se passe bien en général, voilà, pour vous rassurer. On a ensuite une question de Séverine, qui nous demande « Si le nodule s'avère être un cancer, doit-on enlever uniquement la thyroïde ? Est-ce un cancer grave et doit-on avoir de la chimiothérapie ou de la radiothérapie ?» Alors Séverine, si le nodule s'avère être un cancer, on enlèvera la thyroïde, en général les deux lobes, et on pourra en profiter pour réaliser un évidement médiastino-récurrentiel, c'est-à-dire enlever les ganglions qu'il y a autour de la thyroïde. Certains types de cancers nécessitent aussi que l'on enlève les ganglions qu'il y a dans le cou, donc... ça dépendra vraiment du type de cancer qu'il y a dans le nodule. Ce n'est pas un cancer grave dans la très grande majorité des cas. C'est un des cancers que l'on guérit le mieux à l'heure actuelle. Et il peut nécessiter la réalisation d'une irathérapie dans la plus grande majorité des cas, c'est-à-dire de l'iode radioactif qu'on prendra par la bouche dans un service spécialisé afin de détruire le reste du tissu thyroïdien restant. Certains types de cancers peuvent nécessiter des rayons ou de la chimiothérapie, mais ce sont des cas particuliers. Le cancer le plus fréquent est le carcinome papillaire, que l'on retrouve dans la très grande majorité des cas.
Très bien. Donc, dixième question, je crois, de Priscilla, qui demande, en cas de contre-indication de refus de la chirurgie, existe-t-il des alternatives à la chirurgie si le nodule devient gênant ? Donc la réponse est oui. S'il existe une contre-indication ou un refus de la chirurgie, on peut effectivement utiliser des techniques maintenant micro-invasives qui ont fait la preuve de leur efficacité. Mais il faut absolument avoir prouvé auparavant la bénignité du nodule par la réalisation de deux cytoponctions. Donc si c'est sur deux cytoponctions, le nodule est bénin, eh bien on peut procéder donc à ces techniques micro-invasives qui sont des techniques de thermoablation de nodules, soit par laser, c'est-à-dire que donc on introduit une aiguille fine dans le nodule et on y place un laser qui va brûler donc le nodule. Ça se passe dans le cadre d'une hospitalisation de jour, ça ne nécessite pas d'hospitalisation plus longue. Et la procédure dure entre 10 et 30 minutes environ. Et la deuxième technique, c'est la radiofréquence, qui se fait surtout à Toulouse et qui également va brûler le nodule. Donc ces techniques sont efficaces. En général, on demande de contrôler l'échographie à 3 et 6 mois, puis par la suite une fois par an. En général, on arrive à une diminution de 50 à 70% du volume du nodule. Et cet effet est prolongé au moins 3 ans, en sachant qu'on a encore trop peu de recul pour voir ce que ça donne par la suite.
11e question, Ludovic. J'ai un gros nodule bénin qui devient gênant à gauche. À droite, je n'ai rien. Je suis d'accord pour l'opération, mais mon médecin m'a parlé d'un traitement freinateur par lévothyrox. Qu'en pensez-vous ? Ensuite, vous vous demandez, si je suis opéré, on m'enlèvera un seul lobe ou toute la thyroïde. Devrais-je prendre par la suite un traitement à vie ? Alors, le traitement freinateur par lévothyrox, clairement, ça marche pas bien. Enfin, c'est mon avis. Après, chacun son expérience. Un gros nodule qui gêne, le lévothyrox, ça va pas faire grand-chose. Il faut clairement mieux le traiter, ou bien par chirurgie, ou peut-être par ces nouvelles techniques de thermoablation. En tout cas, si on vous opère et qu'il n'y a qu'un seul nodule, on n'enlèvera que soit le nodule si c'est possible, soit la moitié de la thyroïde sur laquelle se situe le nodule, ce qui permet de conserver l'autre côté de la thyroïde, qui dans la très grande majorité des cas permet d'avoir une fonction thyroïdienne satisfaisante et qui donc ne nécessite pas la prise en charge de lévothyrox.
Parfait, ben je crois qu'on en a terminé avec les questions de la semaine. On va maintenant répondre à vos questions en direct.
Voilà, alors, je sais pas. Toi qui choisis.
Ah, d'accord. Alors, il y a une question que j'ai déjà abordée. Pouvez-vous évoquer les techniques non chirurgicales de thermoablation et leur indication ? Donc, je viens d'en parler. Je vous l'ai dit, thermoablation du nodule, soit par laser, soit par radiofréquence. Ce sont des techniques qui ont prouvé leur efficacité et qui ne sont à envisager que lorsque l'on a prouvé la bénignité du nodule sur deux cytoponctions. Il faut savoir que ça reste quand même des indications uniquement en cas, on l'a dit, de refus ou de contre-indication à la chirurgie.
Ensuite, on a une question. L'apparition des nodules est-elle en lien avec l'hérédité ou les facteurs environnementaux ? Alors, le premier facteur d'apparition des nodules, c'est l'âge. Clairement, moins on est jeune, plus on a de nodules. Ensuite, il y a certains types de cancers qui peuvent être familiaux, mais qui sont assez rares. Et les facteurs environnementaux, bon, il y a eu des études qui ont prouvé que, clairement, en Ukraine, après l'incident de Tchernobyl, il y a eu une augmentation du nombre de cancers thyroïdiens. En France, je ne sais pas s'il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui ont...
En France, concernant les facteurs environnementaux, justement, on nous pose souvent les questions concernant un potentiel effet Tchernobyl sur l'augmentation de la prévalence des cancers thyroïdiens. En fait, il n'y a actuellement aucun argument scientifique qui permette de dire qu'il y a eu un effet Tchernobyl en France. Donc l'augmentation de la fréquence des nodules, c'est surtout lié à l'amélioration des... D'abord, on les cherche plus davantage. Et puis, il y a l'amélioration donc, des techniques d'échographie qui explique ça. Donc vraiment, autant, bien entendu, dans des endroits comme en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, en Pologne, on peut bien entendu attribuer l'augmentation de la prévalence des cancers thyroïdiens à Tchernobyl. Autant en France, il n'y a pas d'argument scientifique prouvé.
Ensuite, il y a Aïcha qui nous demande si elle a des nodules de 20 à 15 mm avec une TSH normale. Faut-il opérer ? Aïcha, je vous propose d'aller voir un médecin, parce que clairement, il manque beaucoup d'informations. À quoi ressemblent ces nodules ? Leur classification ETIRADS, par exemple, et tout votre dossier médical. Donc malheureusement, je pourrais pas répondre à l'heure actuelle.
Ce qu'on peut dire simplement, c'est que si votre nodule est classé TIRADS 3, eh bien, on ne ponctionnera que le nodule qui fait 20 mm. Et s'il est classé à partir de TIRADS 2, on ponctionnera 15 mm. Et c'est vraiment les données de la cytoponction qui permettront d'avancer sur la nécessité ou pas d'envisager une intervention chirurgicale.
Celle-là, si tu veux répondre.
Alors, quelle est l'indication de l'iode 131 ? Donc l'iode 131, Damien en a parlé tout à l'heure, l'indication dans les nodules, elle est surtout indiquée après donc un traitement chirurgical pour un cancer thyroïdien en traitement complémentaire pour ce qu'on appelle totaliser le traitement chirurgical et permettre de mieux suivre par la suite le cancer de la thyroïde avec le marqueur qu'on connaît qui s'appelle la thyroglobuline. Pour ce qui est des pathologies bénignes, les indications d'iode radioactif, c'est surtout en cas d'hyperthyroïdie sur les nodules chauds, les goitres multihétéronodulaires toxiques ou les maladies de base d'eau.
Lilou nous demande, elle a un nodule de 3 cm ETIRADS 4, quelle prise en charge recommandez-vous ? Je vous propose de réaliser une cytoponction pour en savoir plus. Et en fonction de la cytoponction, discuter avec un chirurgien de l'éventualité d'une intervention chirurgicale.
Tout à fait. Faut-il ponctionner un micronodule infracentimétrique classé TIRADS 5 ? Donc, dans l'absolu, oui, puisque le TIRADS 5, il est quand même fortement suspect, évidemment, de malignité, avec un risque de malignité qui est entre 46 et 87% en général. Hein, c'est ce qui est... Et donc, si on a la possibilité de le ponctionner, c'est ce qu'il y a de mieux. Malheureusement, parfois, la ponction n'est pas contributive. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas-là, il faut faire une surveillance échographique rapprochée pour juger de l'évolutivité du nodule. Si le nodule grossit de plus de 2 mm, il faudra envisager une chirurgie.
Alors, il y a Hichem qui nous demande, en cas d'adénopathie suspecte sans extemporanée possible, quelles sont les indications du curage bilatéral ? Merci pour cette question. Alors, ça dépend d'où est cette adénopathie. Est-ce qu'elle est au niveau des compartiments centraux ? Est-ce qu'elle se situe sur le côté du cou ? Déjà, ça peut changer les choses. Est-ce qu'elle est suspecte uniquement à un examen d'imagerie ? Ou est-ce qu'il y a eu un prélèvement dessus ? Et à quoi ressemble la thyroïde ? Est-ce qu'il y a des nodules à la thyroïde ? Est-ce qu'une thyroïde est suspecte ? Ou est-ce que cette adénopathie viendrait d'un autre problème ? C'est pareil, là je ne peux pas répondre. Il faut faire une analyse sur l'adénopathie pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est suspecte. Parce que les adénopathies peuvent drainer plusieurs types de maladies au niveau de la tête et du cou, pas uniquement la thyroïde.
Alors, ensuite, y a-t-il un lien entre diabète et nodules thyroïdiens ? Donc la réponse est non, hein, il n'y a pas plus de nodules thyroïdiens chez les diabétiques que dans la population générale. Donc aucun lien entre diabète et nodules thyroïdiens.
Léo nous demande, il a un nodule enkysté et douloureux, TIRADS 3, que faire ? Donc ce nodule TIRADS 3, en fonction de sa taille, déjà on pourra discuter de l'intervention chirurgicale. Est-ce que c'est vraiment ce nodule qui est douloureux ? Est-ce que la cause des douleurs n'est pas à chercher ailleurs, au niveau du rachis cervical par exemple ? Mais si vraiment les douleurs sont étiquetées du fait de ce nodule, ce qui reste quelque chose d'assez rare tout de même, on pourra proposer une intervention chirurgicale. Mais bien vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui pourraient expliquer ces douleurs avant.
Une question de Nathalie qui dit qu'elle a un nodule qui fixe au PET scan, qui est classé TIRADS 4 sur l'échographie et qui a bénéficié de deux ponctions qui sont révélées négatives. Le nodule mesure 24 mm et on lui propose la chirurgie, mais elle hésite parce que le nodule n'a pas grossi depuis un an et qu'il ne la gêne pas. Donc là, effectivement, on est un petit peu dans un cas où on peut effectivement hésiter sur la conduite à tenir, dans la mesure où le nodule fixé sur le PET scan, donc dans ces cas-là, on a à peu près 40% de risque que ce soit un cancer de la thyroïde. Alors, si néanmoins votre nodule est classé Thyrade The 4 et qu'il a bénéficié de deux ponctions qui ne sont pas indéterminées ou non contributives, mais vraiment négatives, et que votre nodule n'a pas grossi, je pense qu'il est effectivement peut-être un peu prématuré d'envisager la chirurgie. On peut continuer à surveiller de manière très régulière votre nodule par une échographie annuelle. Et si effectivement il y avait une évolutivité du nodule, là, à ce moment-là, envisager une chirurgie.
Pierre nous demande s'il faut s'inquiéter d'une ponction nodulaire indéterminée. Alors Pierre, non, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut voir en fonction des autres examens quelle est la forme, la classification du nodule à l'échographie. Une ponction indéterminée, en gros, c'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Donc, parfois, on propose une nouvelle cytoponction, ou si le nodule est très gros ou lui-même inquiétant à l'échographie, on peut proposer d'opérer.
Alors, c'est vrai que je pense que cette question, elle est posée parce qu'effectivement, quand souvent, parfois, en tout cas, la cytoponction nous répond à Bethesda, à la classification de Bethesda, la Bethesda 3, c'est-à-dire atypie de signification indéterminée, ou néoplasme folliculaire de signification indéterminée. Dans ce cas-là, le risque de cancer est de l'ordre de 8 à 17% environ. Et effectivement, dans ces cas-là, ce qui peut être fait si vraiment on a du mal à trancher, il y a actuellement des techniques de biologie moléculaire qui permettent de détecter un panel de gènes, de mutations qui peuvent, si elles sont présentes, comme la mutation du proto-oncogène BRAF, évoquer donc un carcinome papillaire de la thyroïde. Ça peut être... donc il y a beaucoup de travaux concernant la biologie moléculaire qui ne s'effectuent toujours pas en pratique courante, mais uniquement dans certains centres spécialisés. Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup parfois pour trancher, d'avoir recours à ces techniques de biologie moléculaire.
L'hypoparathyroïdie post-opératoire est-elle transitoire ou définitive ? Alors, l'hypoparathyroïdie, c'est donc quand les glandes parathyroïdes arrêtent de fonctionner, si elles sont encore présentes, ou qu'elles ont été toutes enlevées. Donc, c'est quand même très rare d'enlever toutes les glandes parathyroïdes, en sachant qu'en général, il y en a au moins 4. Donc, cette hypoparathyroïdie post-opératoire est la plupart du temps transitoire, du fait de cette sidération des glandes qui vont se remettre à travailler doucement. Donc, la surveillance s'effectue par des prises de sang toutes les semaines avec un dosage du calcium et du phosphore et de l'albumine. On peut y rajouter le dosage de la parathormone, qui est cette hormone parathyroïdienne, et on verra progressivement remonter les taux et on pourra donc progressivement diminuer les médicaments, le calcium et la vitamine D. Donc, au bout de quelques semaines, en général, tout rentre dans la normale.
Alors, Lavande, je crois, qui demande quelle est la différence entre un nodule et un kyste, et que faire en cas de kyste. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les kystes font partie des nodules, hein, ce sont des nodules liquidiens. Donc, lorsque ce sont des nodules purement kystiques, il n'y a pas d'indication de ponction ni d'indication chirurgicale. On peut être amené parfois à faire des ponctions, mais non pas à visée diagnostique, mais à visée évacuatrice, pour affaisser le kyste et éviter que ce kyste ne devienne gênant.
Nadia nous demande, devant un goitre multi-hétéronodulaire, donc avec beaucoup de nodules, avec hyperthyroïdie, donc une glande qui travaille trop, le plus gros des nodules est de 3 cm. Quelle est la prise en charge recommandée ? Alors déjà, il faut qu'on arrive à savoir si c'est un nodule en particulier qui travaille trop ou si c'est l'ensemble de la thyroïde. Et dans ces cas-là, la prise en charge pourra être ou chirurgicale ou médicale, en fonction de la pathologie qui est identifiée. Si c'est le nodule de 3 cm qui travaille trop, en général, on verra la scintigraphie, on peut réaliser une intervention chirurgicale afin d'enlever ce nodule tout en laissant le reste de la thyroïde. Si par exemple vous avez une maladie de basse d'eau, donc une maladie de l'ensemble du tissu thyroïdien, on ira peut-être plus vers un traitement médical en fonction des examens. De toute façon, au début, la prise en charge, c'est le bilan diagnostique.
Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, apparemment. Donc il me reste à vous remercier pour votre présence et votre participation. Et je remercie encore le docteur Damien Rupp, qui est également un collègue. Et donc je remercie d'avoir accepté de participer à cette émission aujourd'hui. Au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.